Chapitre 1. 4 octobre 1957. L'invitation à la danse. 1. Pour moi, la terreur, la véritable terreur, par opposition aux démons et aux croque-mitaines qui pouvaient vivre dans mon esprit, est née un bel après-midi d'octobre 1957. Je venais d'avoir 10 ans. Et, circonstance des plus appropriées, je me trouvais dans une salle de cinéma, le Stratford Theatre, situé dans le centre-ville de Stratford, Connecticut. Le film qu'on montrait ce jour-là était et est encore un de mes préférés. Et le fait que ce soit lui que j'ai choisi de voir, plutôt qu'un western avec Randolph Scott ou un film de guerre avec John Wayne, n'est pas moins approprié. Ce samedi où naquit la véritable terreur, je regardais Les soucoupes volantes attaquent, avec en vedette Hugh Marlowe, un acteur surtout connu à l'époque pour avoir interprété le fiancé xénophobe que Patricia Neal finissait par larguer dans Le jour où la Terre s'arrêta, un film de science-fiction un peu plus ancien et beaucoup plus rationnel. Dans Le jour où la Terre s'arrêta, un extraterrestre nommé Klaatu, Michael Rennie, dans un survêtement intergalactique d'un blanc étincelant, atterrit en plein centre de Washington à bord de sa soucoupe volante, laquelle, lorsqu'elle est énergisée, brille comme un de ces Jésus en plastique qu'on vous donnait dans le temps au catéchisme pour vous récompenser d'avoir appris par cœur les versets de la Bible. Klaatu descend de sa passerelle et s'immobilise, fixé par plusieurs regards horrifiés et par une bonne centaine d'armes à feu. C'est une scène de tension mémorable, que le souvenir ne fait que rendre plus attachante. Le genre de scène qui transforme les gens comme moi en mordus de cinéma. Klaatu commence à tripoter un genre de gadget. Si mes souvenirs sont bons, ça ressemblait à une tondeuse à gazon miniature, et un soldat à l'index trop nerveux lui tire une balle dans le bras. Bien entendu, on apprendra par la suite que ce gadget était un cadeau destiné au président. Rien à voir avec un rayon de la mort. Un simple anticancer interstellaire. C'était en 1951. Mais ce samedi après-midi, 6 ans plus tard, les occupants des soucoupes volantes étaient nettement moins sympathiques. Là où Michael Rennie composait un Klaatu à la noblesse empreinte de tristesse, ces extraterrestres-là ressemblaient à des arbres vivants extrêmement maléfiques, avec un corps flétri et tortueux et un visage de vieillard irascible. Plutôt que d'apporter un anticancer au président, comme un ambassadeur entrant dans ses fonctions qui souhaite témoigner de l'estime de sa patrie pour un pays ami, les occupants de ces soucoupes volantes apportent des rayons de la mort, des dégâts considérables et éventuellement la guerre totale. Le tout, et en particulier la destruction de Washington, rendu de façon merveilleusement réaliste par Ray Harryhausen, un technicien des effets spéciaux qui allait au cinéma avec un certain Ray Bradbury quand il était gamin. Klaatu est venu tendre la main de l'amitié et de la fraternité. Il propose au peuple de la Terre d'adhérer à un genre d'ONU interstellaire, à condition que nous puissions renoncer à la fâcheuse habitude que nous avons de nous exterminer les uns les autres. Les extraterrestres des soucoupes volantes attaquent n'ont qu'un seul but, la conquête. Ils forment la dernière armada d'une planète mourante, incroyablement vieille et avide, et ils ne sont pas en quête de paix, mais de pillage. Le jour où la Terre s'arrêta est un oiseau rare. C'est un authentique film de science-fiction. Les créatures millénaires des soucoupes volantes attaquent sont les émissaires d'une espèce cinématographique bien plus répandue, le film d'horreur. Pas question pour eux de proférer des stupidités du genre « C'était un cadeau pour votre président ». Ces types-là descendent sur Cap Canaveral, où Hugh Marlowe dirige le projet Skyhook, et commencent à foutre la merde. Je pense que c'est dans le fossé, séparant ces deux philosophies, qu'a été semée la graine de la terreur. S'il existe une ligne de force entre ces idées diamétralement opposées, c'est presque certainement là que la terreur a germé. Car soudain, alors qu'arrivait la dernière bobine du film, et que les soucoupes se préparaient à attaquer la capitale de notre grande nation, tout s'est arrêté. L'écran est devenu noir. La salle était pleine de gosses, mais presque personne n'a protesté. Si vous n'avez pas oublié les séances de cinéma de votre folle jeunesse, vous savez qu'une bande de gamins dispose d'un abondant répertoire pour exprimer son désagrément lorsque le film est interrompu ou tarde à démarrer. On tape des mains, on entonne un des célèbres chants tribaux de l'enfance. « On veut le film ! On veut le film ! On veut le film !» On lance des paquets de bonbons sur l'écran, on transforme les boîtes de pop-corn en clairons. Si un des petits monstres a gardé des pétards de la dernière fête nationale, il saisira l'occasion pour les sortir de sa poche, les soumettre à l'approbation admirative de ses copains, puis il les allumera et les jettera dans l'assistance. Il ne s'est rien produit de tel cet après-midi d'octobre. Le film n'était pas cassé. On avait tout simplement éteint le projecteur. Puis les lumières se sont allumées dans la salle, ce qui était tout bonnement inouï. Et nous avons tous regardé autour de nous, clignant des yeux comme des taupes subitement exposées à la lumière du jour. Le gérant de la salle est apparu sur la scène et a levé les mains pour demander le silence, un geste parfaitement superflu. 6 ans plus tard, en 1963, j'ai repensé à cette scène lorsque, un vendredi de novembre, le chauffeur de notre car scolaire nous a dit que le président venait d'être abattu à Dallas. 2. S'il y a bien une vérité concernant la danse macabre, c'est la suivante. Les romans, les films, les dramatiques télé et radio, et même les bandes dessinées, qui relèvent de l'horreur, fonctionnent toujours sur 2 niveaux. Le premier est celui du haut-le-cœur pur et simple. Quand Reagan vomit sur le visage du prêtre, ou se masturbe avec un crucifix dans l'exorciste. Ou quand l'horrible monstre aux allures d'écorchés de Prophecy, le film de John Frankenheimer, mord à belles dents dans la tête du pilote d'hélicoptère. Cette tactique peut être employée avec divers degrés de finesse artistique, mais elle est toujours présente. Mais il existe un autre niveau, beaucoup plus puissant, où l'horreur peut être comparée à une danse, une quête dynamique et cadencée. Et l'objet de cette quête, c'est le lieu où vous-même, lecteur ou spectateur, vivez à votre niveau le plus primitif. L'œuvre d'horreur ne s'intéresse pas aux meubles civilisés de notre vie. Elle traverse en dansant les pièces que nous avons soigneusement meublées et décorées, et dont chaque élément exprime, du moins l'espérons-nous, notre personnalité socialement acceptable et plaisamment éclairée. L'œuvre d'horreur cherche un autre lieu, une pièce qui ressemble tantôt à la tanière secrète d'un gentleman victorien, tantôt à la salle des tortures de l'Inquisition espagnole, mais peut-être plus fréquemment à la caverne fruste et mal dégrossie d'un homme de l'âge de la pierre. L'œuvre d'horreur est-elle une œuvre d'art? Lorsqu'elle fonctionne à ce second niveau, elle n'est jamais autre chose. Elle accède au statut d'œuvre d'art tout simplement parce qu'elle est en quête de quelque chose qui transcende l'art, qui est antérieur à l'art, ce que j'appellerais des points de pression phobiques. Un bon récit d'horreur vous atteindra au centre même de votre vie et trouvera la porte secrète de la pièce que vous croyez être le seul à connaître. Comme nous l'ont fait remarquer Albert Camus et Billy Joel, l'étranger nous met mal à l'aise, mais nous adorons revêtir son visage en secret. Les araignées vous font peur ? Bien. On va vous en donner des araignées, comme dans Tarantula, l'homme qui rétrécit et l'horrible invasion. Et les rats ? Dans le roman de James Herbert, qui porte ce titre, vous les sentirez ramper sur vous et vous dévorer vivant. Et quel effet vous font les serpents ? Ou les espaces clos ? Les hauteurs ? Ou tout ce que vous voudrez ? Les livres et les films étant des masses médias, le domaine de l'horreur a eu souvent l'occasion de se montrer plus efficace que ses phobies au cours des 30 dernières années. Durant cette période, et à un moindre degré durant les 70 ans et quelques qui l'ont précédé, L'horreur est souvent parvenue à localiser des points de pression phobique à l'échelon national. Et les livres et les films qui ont connu le plus de réussite semblent presque toujours exprimer des peurs qui sont partagées par un vaste échantillon de la population. De telles peurs, qui relèvent plus souvent de la politique, de l'économie et de la psychologie que du surnaturel, donnent aux meilleures œuvres d'horreur une touche plaisamment allégorique, d'un type d'allégorie qui semble particulièrement convenir à la plupart des cinéastes. Peut-être parce qu'ils savent que, si la situation commence à devenir vraiment trop désespérée, ils ont toujours la possibilité de faire sortir le monstre des ténèbres où il se tapissait. Nous n'allons pas tarder à retrouver Stratford, Connecticut, en 1957. Mais avant ça, permettez-moi de suggérer que, parmi les films des trois dernières décennies à s'être montrés les plus habiles à localiser un point de pression, figure L'invasion des profanateurs de sépultures, de Don Siegel. Un peu plus loin, nous parlerons du roman dont il est tiré. Et Jack Finney, son auteur, aura aussi son mot à dire. Mais pour l'instant, jetons un bref coup d'œil au film. On ne trouve rien de vraiment horrible dans l'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel. On n'y voit aucun extraterrestre flétri et maléfique, aucune monstruosité dissimulée sous le masque de la banalité. Les hommes cosses sont juste un peu différents, voilà tout. Un peu distraits, un peu négligés. Bien que Finney n'insiste guère sur ce point dans son livre, il suggère néanmoins que ce qu'il y a de plus horrible chez eux, c'est qu'ils sont dépourvus du sens esthétique le plus élémentaire. Peu importe que ces usurpateurs extraterrestres ne soient pas en mesure d'apprécier La Traviata ou Moby Dick, ni même une belle peinture de Norman Rockwell en couverture du Saturday Evening Post. Bien sûr, c'est un peu inquiétant, mais, mon Dieu, il ne daigne même pas tondre la pelouse, ni remplacer le carreau que le gamin des voisins a cassé en jouant au baseball. Ils ne repeignent pas leur maison quand la peinture commence à s'écailler. Les routes menant à Mill Valley, nous dit-on, ont tellement d'ornières et de nids de poules que les commerçants qui approvisionnent la ville, qui insufflent à ses poumons municipaux l'atmosphère bienfaisante du capitalisme, pourrait-on dire, ne prendront bientôt plus la peine de s'y rendre. Le premier niveau, celui du haut-le-cœur, est efficace. Mais c'est ce second niveau de l'horreur qui nous permet souvent de ressentir cette vague angoisse qui déclenche la chair de poule. Au fil des ans, l'invasion des profanateurs de sépultures a donné la chair de poule à pas mal de gens. Et on a attribué toutes sortes de significations profondes au film de Siegel. On l'a considéré comme une œuvre anti-McCarthyiste, jusqu'au jour où quelqu'un a fait remarquer que les opinions politiques de Siegel ne pouvaient guère être qualifiées de gauchisantes. Puis on l'a vu comme une illustration du slogan « plutôt mort que rouge ». À mon humble avis, cette interprétation colle davantage au film, à la fin duquel on voit Kevin McCarthy en plein milieu d'une autoroute en train de crier « Ils sont déjà là! Ça va être votre tour !» à des automobilistes qui foncent sans lui prêter attention. Mais franchement, je ne pense pas que Siegel ait eu des intentions politiques quand il a tourné son film. Et vous verrez un peu plus loin que Jack Finney partage mon avis. Je crois qu'il l'a tourné pour s'amuser, tout simplement, et que cette signification sous-jacente est arrivée toute seule. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'invasion des profanateurs de sépultures soit dénuée de tout élément allégorique. Je souhaite simplement suggérer que ces points de pression, ces terminaux de la peur, sont si profondément enfouis et cependant si vitaux que nous y puisons comme à un puits artésien. Tout en disant une chose à voix haute, nous en murmurons une autre. La version que Philip Kaufman a donnée du roman de Finney est agréable, quoique, pour être franc, pas tout à fait aussi agréable que celle de Siegel. Mais la nature de ce murmure a entièrement changé. Kaufman semble vouloir faire une satire féroce de l'égocentrisme des années 1970. « Je suis formidable, tu es formidable, plongeons dans le jacuzzi et massons nos si précieuses consciences. » Tout ceci pour suggérer que, Bien que les mauvais rêves du subconscient collectif puissent changer d'une décennie à l'autre, le conduit qui permet de s'alimenter à ce puits onirique jouit d'une vitalité permanente. Je pense que c'est là qu'est la véritable danse macabre. Dans ces moments remarquables où le créateur d'une histoire d'horreur réussit à unir le conscient et le subconscient grâce à une idée puissante. J'estime que Siegel y est parvenu avec plus de succès que Kaufman, mais tous deux n'en ont eu la possibilité que grâce à Jack Finney, qui avait creusé le puits où ils ont trouvé leur eau. Et on dirait bien que ceci nous ramène à Stratford et à ce bel après-midi d'automne 1957. 3. Nous restions assis comme des mannequins de cire, les yeux fixés sur le gérant. Il avait l'air pâle et angoissé, mais peut-être était-ce dû au feu de la rampe. On se demandait quel genre de catastrophe avait pu l'obliger à stopper la projection juste au moment où le film atteignait cette apothéose de toute séance du samedi qui se respecte, le meilleur passage. Et lorsqu'il prit la parole, ce fut d'une voix tremblante qui n'avait vraiment rien de rassurant. « Je voulais vous dire, déclara-t-il, que les Russes viennent de placer un satellite spatial en orbite autour de la Terre. Ils l'ont appelé Spoutnik. » Cette information fut accueillie par un silence absolu, sépulcral. La salle était figée. Une salle pleine de gamins et de gamines typiques des années 1950, aux cheveux coupés en brosse, réunis en queue de cheval, ou gominés dans le style blouson noir, vêtus de t-shirts, de jupes plissées ou de jeans reprisés, portant parfois au doigt une bague à l'insigne de Captain Midnight. Des gamins et des gamines qui venaient de découvrir Chuck Berry et Little Richard grâce à la seule station radio de New York diffusant du rhythm and blues noir, dont on captait les émissions tard le soir comme des messages venus d'une autre planète. Nous avions grandi en regardant Captain Video et en lisant Terry et les pirates. Les bandes dessinées nous avaient montré Combat Casey en train de casser du Nord-Coréen en quantité invraisemblable. La télévision nous avait montré Richard Carlson en train de capturer des milliers d'espions communistes dans I Let Three Lives. On avait dépensé 25 cents pour voir Hugh Marlowe dans les soucoupes volantes attaques, et voilà qu'on recevait cette sinistre nouvelle dans les dents, en guise de bonus. J'ai conservé un vif souvenir de la suite. Cet horrible silence fut soudain brisé par une voix suraiguë, garçon ou fille, je l'ignore, une voix au bord des larmes, mais également emplie d'une terrifiante colère. « Oh, montre-nous le film, espèce de menteur !» Le gérant ne daigna même pas se tourner vers le fauteuil d'où venait cette voix. Et c'était bien le plus horrible de l'histoire. C'était une preuve. Les Russes nous avaient battus dans la course à l'espace. Quelque part au-dessus de nos têtes, émettant son bip-bip triomphant, se trouvait un ballon électronique fabriqué et lancé derrière le rideau de fer. Ni Captain Midnight, ni Richard Carlson, qui, ironie du sort, était aussi la vedette d'un film intitulé « Chasse aux étoiles », n'avait pu l'arrêter. Il était là-haut, et il s'appelait Spoutnik. Le gérant est resté quelques instants planté sur la scène, à nous regarder comme s'il souhaitait nous dire autre chose, mais ne trouvait pas ses mots. Puis il est reparti, et le film a repris son cours peu après. 4. Et maintenant, une question. Vous vous rappelez ce que vous faisiez quand John Kennedy a été assassiné? Vous vous rappelez où vous étiez lorsque Robert Kennedy a été abattu par un autre dingue dans les cuisines d'un hôtel? Peut-être même vous rappelez-vous ce que vous faisiez lorsqu'a éclaté la crise des missiles cubains. Mais où étiez-vous le jour où les Russes ont lancé Spoutnik 1? La terreur, ce que Hunter Thompson appelle la peur mêlée de répugnance, trouve souvent son origine dans une profonde sensation de déstabilisation. L'impression que les choses sont en train de se déliter. Si cette impression est soudaine et vous semble personnelle, si elle vous frappe en plein cœur, elle se grave dans votre mémoire de façon indélébile. Le fait que presque tous mes contemporains se souviennent de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont appris l'assassinat de Kennedy me paraît presque aussi intéressant que le fait qu'un débile, armé d'un fusil acheté par correspondance, ait pu changer le cours de l'histoire du monde en 14 secondes environ. Cet événement tragique et les 3 jours de deuil qui l'ont suivi sont sans doute ce qui se rapproche le plus dans l'histoire d'une période de conscience de masse, d'empathie de masse et, avec le recul, de mémoire de masse. 200 millions de personnes tétanisées par le choc. Apparemment, l'amour est incapable de déclencher ce genre de réaction évoquant un coup de marteau-pilon. Et c'est bien dommage. Je ne cherche pas à suggérer que le lancement de Spoutnik a exercé un effet similaire sur la psyché américaine. Bien qu'il n'ait pas été sans conséquences. Voir le récit amusant qu'en fait Tom Wolfe dans L'étoffe des héros, son excellent livre sur notre programme spatial, mais je pense que pas mal de gamins de mon âge, on nous appelait les enfants de la guerre, s'en souviennent aussi bien que moi. Ma génération formait un terreau idéal pour les graines de l'horreur. Nous avions été élevés dans une étrange atmosphère foraine faite de paranoïa, de patriotisme et d'orgueil national. On nous avait dit que notre nation était la plus grande du monde, et que le premier hors-la-loi rouge, qui essayerait de sortir son flingue dans le grand saloon de la politique internationale, découvrirait à ses dépens qui était le tireur le plus rapide de l'Ouest. Voir le roman de Pat Frank, ce monde qui n'était pas sauvé, très représentatif de cette époque. Mais on nous disait aussi ce qu'il fallait entreposer dans nos abris anti-atomiques, et combien de temps on devrait y rester enfermé une fois qu'on aurait gagné la guerre. Notre pays était le mieux alimenté de l'histoire, mais il y avait dans notre lait des traces de strontium-90 dû aux essais nucléaires. Nos parents avaient gagné une guerre que John Wayne appelait « The Big One ». Et une fois que la poussière s'était dissipée, l'Amérique était le numéro 1. Nous avions remplacé l'Angleterre dans le rôle du colosse qui domine le monde. Quand les jeunes hommes et les jeunes femmes de ce pays ont entrepris de concevoir les millions d'enfants qui ont aujourd'hui mon âge, Londres avait été quasiment anéanti par le Blitz. Le soleil se couchait environ toutes les 12 heures sur l'Empire britannique et la Russie avait été presque saignée à blanc par sa guerre contre les nazis. Durant le siège de Stalingrad, les soldats de l'armée rouge avaient été obligés de manger les cadavres de leurs camarades pour ne pas mourir de faim. Mais pas une seule bombe n'était tombée sur New York. Et de toutes les grandes puissances engagées dans la guerre, l'Amérique était celle qui avait eu à souffrir du pourcentage de pertes le plus faible. En outre, nous avions une formidable histoire à notre disposition. Toutes les histoires courtes sont formidables, en particulier dans les domaines de l'invention et de l'innovation. Tous les instituteurs de ce pays connaissaient les mots magiques qui enchantaient leurs élèves. Deux mots qui étincelaient comme une splendide enseigne au néon. Deux mots d'une puissance et d'une grâce presque incroyables. Et ces deux mots magiques étaient « esprit pionnier ». Mes contemporains ont grandi dans la sécurité que conférait l'esprit pionnier américain. Ils apprenaient par cœur toute une litanie de noms qui en étaient le symbole. Elie Whitney, Samuel Morse, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Robert Goddard, Wilbur et Orville Wright, Robert Oppenheimer. Ces hommes, mesdames et messieurs, avaient en commun une grande chose. C'étaient des Américains gorgés d'esprit pionnier. Nous étions, nous avions toujours été, les meilleurs d'entre les meilleurs. Et quel grandiose avenir nous attendait. Cet avenir était esquissé par les romans de Robert E. Heinlein, de Lester Del Rey, d'Alfred Bester, de Stanley Weinbaum et de plusieurs douzaines d'écrivains. Leurs rêves prenaient forme dans les derniers des magazines de science-fiction, qui commençaient à battre de l'aile en ce mois d'octobre 1957. Mais la science-fiction, elle, était encore en pleine forme. L'espace n'allait pas accueillir que des conquérants, nous disaient ses auteurs. Il allait accueillir des pionniers. Des flèches argentées transperçant le vide, suivis par de puissantes fusées déposant d'énormes cargos sur des mondes inconnus, suivis à leur tour par des colonies fondées par des hommes et des femmes courageux, et américains, bien entendu, et gorgés d'esprits pionniers. Mars allait devenir notre proche banlieue. Une nouvelle ruée vers l'or, ou peut-être bien vers le rhodium, allait se déclencher dans la ceinture des astéroïdes. Et au bout du compte, évidemment, les étoiles elles-mêmes nous appartiendraient. Quel avenir fabuleux, avec des touristes mitraillant de leur Kodak les six lunes de Procyon 4 et une chaîne de montage du Chevrolet Jet Car sur Sirius 3. La Terre elle-même deviendrait une utopie telle qu'on pouvait en contempler sur les couvertures de Fantasy and Science Fiction, d'Amazing Stories, de Galaxy et d'Astounding Science Fiction durant les années 1950. Un avenir gorgé d'esprits pionniers. Encore mieux, un avenir gorgé d'esprits pionniers américains. Regardez par exemple la couverture de la première édition de poche des Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Sur cette vision, qui doit tout à l'imagination de l'illustrateur et rien à celle de Bradbury, il n'y a rien d'aussi stupidement ethnocentrique dans ce classique de la littérature de l'imaginaire. Les astronautes posant le pied sur Mars ressemblent curieusement aux Marines, déferlant sur la plage de Saipan ou de Tarawa. Derrière eux, on aperçoit une fusée plutôt qu'une barge, mais leur commandant à la mâchoire carrée, brandissant un pistolet laser, semble tout droit sorti d'un film de John Wayne. « Dépêchez-vous, bande de bleus! Vous avez peur de mourir? Où est passé votre esprit pionnier ?» Tel fut le berceau de théories politiques élémentaires et de rêveries technologiques qui a protégé mes contemporains et moi-même jusqu'à ce jour d'octobre 1957 où le berceau est tombé par terre et où nous en sommes tous sortis pour de bon. Pour moi, ce fut la fin d'un doux rêve et le commencement d'un cauchemar. Les enfants comprirent aussi vite que quiconque les implications de l'exploit des Russes. En tout cas, aussi vite que les politiciens qui se mettaient en quatre pour ramasser les débris de nos espoirs et tenter de les remettre sur pied. En 1957, les gigantesques bombardiers qui avaient démoli Berlin et Hambourg lors de la Seconde Guerre mondiale commençaient déjà à être dépassés. Un nouveau sigle sinistre venait de faire son entrée dans le vocabulaire de la terreur. ICBM. Les ICBM, nous disait-on, n'étaient qu'une version améliorée des V2 allemands. Ils étaient capables de transporter une énorme charge de mort et de destruction atomique, et si les Ruskov faisaient les malins, on allait les faire disparaître de la surface de la Terre. « Fais gaffe, Moscou! Voilà une bonne dose bien chaude d'esprit pionnier, bande de jobards !» Sauf que, incroyable mais vrai, les Russes se débrouillaient drôlement bien, rayon ICBM. Après tout, les ICBM ne sont que de grosses fusées, et les cocos n'avaient sûrement pas mis Spoutnik en orbite grâce à un chauffe-eau. Et c'est dans ce contexte que le film a repris son cours à Stratford, et nous avons entendu résonner le sinistre écho de la voix des extraterrestres. « Surveillez votre ciel. Un avertissement viendra du ciel. Surveillez votre ciel. » 5. Ce livre est une étude informelle de l'histoire de l'horreur durant les 30 dernières années, et non une autobiographie de votre serviteur. L'autobiographie d'un père de famille romancier et ancien prof de lycée n'aurait rien de passionnant, croyez-moi. J'exerce le métier d'écrivain, ce qui veut dire que ce qui m'est arrivé de plus intéressant m'est arrivé dans mes rêves. Mais comme je suis un romancier d'horreur et un enfant de mon époque, et comme je crois sincèrement que le lecteur ou le spectateur n'est horrifié que lorsqu'il est personnellement touché, vous trouverez dans ces pages une foule d'éléments autobiographiques. Dans la vie réelle, l'horreur est une émotion que l'on doit affronter en solitaire, comme il m'a fallu affronter le fait que les Russes nous avaient battus dans la course à l'espace. C'est un combat que l'on livre au plus profond de son cœur. Je crois sincèrement que nous sommes tous seuls, et que tout contact humain, si profond et si durable soit-il, n'est rien de mieux qu'une illusion nécessaire. Mais au moins les sentiments que nous considérons comme positifs et constructifs représentent-ils de notre part une tentative pour toucher notre prochain, pour entrer en contact avec lui et établir une sorte de communication. L'amour et la tendresse, la capacité d'empathie, sont tout ce que nous connaissons de la lumière. Ce sont autant d'efforts pour former un lien entre nous. Ce sont des émotions qui nous rassemblent, sinon en réalité, du moins dans le cadre d'une illusion réconfortante qui allège notre fardeau de mortalité. L'horreur, la terreur, la peur, la panique. Ces émotions-là élèvent des barrières entre nous, nous séparent de notre prochain, font de nous des êtres isolés. Il est paradoxal que des sentiments et des émotions que nous associons avec l'instinct de la foule exercent un tel effet. Mais on se sent bien solitaire dans une foule, paraît-il. Une foule n'est qu'une masse de gens sans amour pour les réunir. Les mélodies de l'horreur sont simples et répétitives, et ce sont des mélodies de la déstabilisation, de la désintégration. Mais, autre paradoxe, l'expression rituelle de ces émotions semble ramener les choses à un état plus stable et plus constructif. Demandez à un psychanalyste ce qui se passe lorsque son patient s'étend sur le divan et lui parle de ce qui l'empêche de dormir et de ce qu'il voit dans ses rêves. « Que vois-tu quand tu éteins la lumière ?» demandent les Beatles dans « With a little help from my friends ». Réponse « Je ne peux pas te le dire, mais je sais que c'est à moi ». Le genre dont nous parlons, qu'il s'exprime dans les livres, au cinéma ou à la télé, n'a qu'un seul but, nous montrer des horreurs inventées. Et parmi les questions qu'on me pose le plus souvent, notamment les personnes qui ont appréhendé ce paradoxe, mais ne l'ont peut-être pas encore parfaitement assimilé, il y a celle-ci. Pourquoi donc inventez-vous de telles horreurs alors que la réalité en est déjà pleine? La réponse est apparemment la suivante. Nous inventons des horreurs pour nous aider à supporter les vraies horreurs. Armés de la formidable capacité d'invention de l'esprit humain, nous agrippons les choses qui nous divisent et nous détruisent et tentons de les transformer en outils, dans le but de les démonter. Le terme de catharsis est aussi ancien que la tragédie grecque, et certains de mes confrères ont tendance à l'utiliser un peu trop facilement pour justifier leur activité. Mais il nous est quand même ici d'une relative utilité. Le rêve d'horreur est en lui-même un défoulement et une thérapie. Et peut-être bien que le rêve d'horreur reconverti en masse média est parfois en mesure de devenir un divan à l'échelle nationale. Revenons une dernière fois à ce mois d'octobre 1957. Si absurde que cela puisse paraître, les soucoupes volantes à TAC ont bel et bien acquis une signification politique. Derrière cette histoire mélodramatique d'invasion spatiale, nous trouvons un avant-goût de la guerre ultime. Les monstres avides et flétris qui pilotent ces soucoupes sont en réalité les Russes. La destruction du monument de Washington, du dôme du Capitole et de la Cour suprême, rendue crédible par les extraordinaires effets spéciaux de Ray Harryhausen, est exactement identique à celle que nous nous attendons à contempler le jour où les bombes A nous tomberont sur la tête. Puis arrive la fin du film. La dernière soucoupe a été abattue par l'arme secrète de Hugh Marlowe, un fusil à ultrasons qui dérègle les moteurs électromagnétiques des astronefs ou une stupidité attendrissante de ce genre. Dans toutes les rues de Washington, des haut-parleurs beuglent le message suivant. « Tout danger est écarté, pour le moment. Tout danger est écarté, pour le moment. Tout danger est écarté. » Pour le moment. La caméra nous montre un ciel dégagé. Les monstres millénaires aux rictus sinistres et aux visages de vieillards ont été vaincus. Cut sur une plage californienne, déserte comme par magie, où se promènent Hugh Marlowe et sa toute nouvelle épouse. Bien entendu, il s'agit de la fille du vieux militaire bougon mort pour la patrie. Ils sont en pleine lune de miel. « Russ ?» lui demande-t-elle. Est-ce qu'ils reviendront un jour? Marlowe contemple sagement le ciel, puis se tourne vers sa femme. Pas par une aussi belle journée, dit-il d'une voix apaisante, et pas dans un monde aussi beau. Main dans la main, il court vers les vagues, et apparaît le générique de fin. Pendant un instant, rien qu'un instant, le paradoxe a joué. Nous avons empoigné l'horreur, et nous nous en sommes servis pour la détruire. une prouesse analogue à celle qui consiste à monter dans les airs en se hissant par les pieds. L'espace de quelques secondes, notre peur la plus profonde, le Spoutnik russe et ses implications, a été excisée de notre esprit. Elle finira par refaire surface, mais à chaque jour suffit sa peine. Pour le moment, nous avons affronté le pire, et le pire n'était pas si grave. La fin du film nous a apporté un instant magique de réintégration et d'apaisement, une sensation similaire à celle que vous éprouvez sur les montagnes russes quand le wagonnet s'arrête en fin de course et que vous en descendez avec votre petit ami, sain et sauf tous les deux. Je crois sincèrement que c'est cette sensation de réintégration, suscitée par un genre spécialisé dans la mort, la peur et la monstruosité, qui fait de la danse macabre quelque chose de gratifiant et de magique. Sans oublier l'incroyable capacité d'invention de l'esprit humain qui arrive à créer une quantité infinie d'univers oniriques et à en faire bon usage. C'est un univers de ce type qui a permis à la grande poétesse Anne Sexton de trouver la santé mentale par l'écriture. Grâce au poème où elle décrivait sa descente dans le maelstrom de la folie, elle a recouvré sa capacité à affronter le monde, du moins pour un temps. Et peut-être a-t-elle rendu le même service à certains de ses lecteurs. Ce qui ne veut pas dire que l'écriture doive trouver sa justification par une quelconque utilité sociale. Le simple plaisir du lecteur est déjà bien suffisant, n'est-ce pas? C'est dans un tel univers que j'ai choisi de vivre depuis mon enfance, longtemps avant le lancement de Spoutnik 1 et l'incident de Stratford. Je n'ai pas l'intention de vous faire croire que les Russes, en m'infligeant un traumatisme, m'ont poussé à m'intéresser à la littérature d'horreur, mais de souligner que c'est à cet instant-là que j'ai senti une connexion fort utile entre l'univers du fantastique et les manchettes des journaux. L'objet de ce livre est une promenade dans cet univers, dans les mondes du fantastique et de l'horreur qui m'ont enchanté et terrifié. Le plan en est fort brouillon, et si votre humble guide vous rappelle parfois un chien de chasse à la truffe défaillante, qui court dans tous les sens et suit la moindre odeur intéressante qui vient à croiser son chemin, je ne m'en vexerai pas outre mesure. Mais nous n'allons pas à la chasse. Nous allons danser. Et parfois, on éteint toutes les lumières dans la salle de bal. Mais nous danserons quand même, vous et moi, même dans le noir. Surtout dans le noir. Voulez-vous m'accorder cette danse ?